En cette semaine missionnaire mondiale, nous avons la joie et la grâce d'être avec une missionnaire originaire du Pays Basque, originaire de Saint-Pé, sœur Jeannine Saint, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes originaire de Saint-Pé, vous êtes fille de la Croix, et ça fait tout juste 50 ans que vous êtes missionnaire en Côte d'Ivoire depuis 1973. Alors, avant de parler de votre engagement, de votre mission là-bas en Côte d'Ivoire, peut-être dites-nous tout simplement pourquoi vous êtes devenue religieuse, fille de la Croix.
Bon, je suis née d'une famille très pratiquante, très chrétienne. Mon père avait deux sœurs religieuses, une l'aînée fille de la Croix, la dernière Ursuline à l'Argentée. Et pour moi, c'était presque évident que je devais choisir ce choix de vie. Je n'ai jamais eu, comment dire, d'hésitation là-dessus, bien que quand j'étais enfant, je disais à mes frères, quand je serai mariée, j'aurai au moins 12 enfants. Et cela le faisait rire. Mais autrement, mon choix de mariage ou de vie religieuse, c'était la vie religieuse pour moi. Ça n'a pas... Et à l'école, nous avions des filles de la Croix, mais j'étais scolarisée avec une institutrice que j'aimais beaucoup, Mademoiselle Arribillaga. Elle a été un peu le phare de mon enfance, cette femme. Elle nous parlait beaucoup de la vocation. Beaucoup de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pas de notre fondatrice Sainte Jeanne-Élisabeth, mais beaucoup de Sainte Thérèse, sa vie cachée, sa vie donnée, sa vie offerte avec sa jeunesse. Et pour moi, c'était presque évident que je devais être religieuse.
C'est un petit clin d'œil du bon Dieu, parce que Sainte Thérèse, c'est là quand même la patronne des missionnaires, des missions.
Exactement. C'est pour ça que quand je suis rentrée très tôt, j'ai demandé à aller en mission. Et on m'a promis, parce que chez les filles de la Croix, nous ne sommes pas une congrégation missionnaire. Nous sommes, voilà. Et bon, on m'a dit, oui, tu iras en mission. Et effectivement, en 1973, il fallait une religieuse infirmière dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans un dispensaire de brousse proche du Mali. Et alors, bon, j'avais quand même fait mes études infirmières et la supérieure générale m'a dit, est-ce que tu es toujours dans les mêmes dispositions pour aller en mission en Côte d'Ivoire comme infirmière? Et j'ai dit oui.
Ça fait 50 ans que vous dites oui, puisque
C'est ça.
50e année que vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour quand vous êtes arrivé là-bas?
Je me rappelle du premier jour parce que, bon, on dit oui et il faut partir. On prend l'avion, on s'en va. Mais avant de partir, il y a une voisine, Madame Doquelard, qui est la maman d'un prêtre et la grand-mère d'un petit-fils prêtre. Et elle m'a dit, il paraît que vous partez en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit oui. Donc c'est tout, on a conversé comme ça. Et en arrivant en Côte d'Ivoire, ce qui m'a frappé, c'est évidemment cette chaleur, cette touffeur, parce que c'est quand même chaud et humide. Bon, tout le monde était coloré. Tout d'un coup, je vois une tête. J'ai cru à pas un miracle, mais j'étais étonnée. Et c'était le fils de ma voisine. Il était professeur de français là-bas ou d'espagnol. Et elle lui a demandé, va à l'aéroport, il y a Sœur Jeannine qui arrive. Donc ça, c'est mon arrivée. Ensuite, nous avons été accueillis chez les servantes de Marie. Ce sont elles qui sont venues nous chercher. Donc, la première nuit, nous l'avons passée à tout pas chez elle. Alors, je ne vous dis pas tous les bruits de la nature le soir. C'était une découverte, quoi. Un peu inquiète, mais bon, j'étais avec deux autres sœurs.
Sœur Jeannine Saint, en quelques minutes, on ne va pas pouvoir raconter 50 ans de présence et d'engagement en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il y a quand même la nécessité de s'inculturer. Or, 50 ans après, comment vous êtes inculturé en Côte d'Ivoire?
Je pense qu'il y a un adage qui dit là-bas, un bâton qu'on met dans le marigot ne va pas devenir caïman. Je pense que je me suis inculturée sans être totalement, mais j'aime beaucoup le peuple sénoufo chez qui j'ai été envoyée. Je l'estime beaucoup, j'apprécie sa loyauté. Le peuple sénoufo me rappelle un petit peu le peuple du Pays basque, un peu rude. Mais quand la parole est donnée, elle est ferme, elle est active, elle est sûre. Donc je vis dans ce peuple d'une manière, je suis à l'aise, quoi. Je suis très à l'aise. Et je peux dire que Les gens, même si je ne parle pas correctement la langue, oh, ils disent, c'est pas grave, quoi. Bon, tu nous aimes, tu nous respectes. Et souvent, tu nous respectes trop. Ça veut dire, tu as de la considération et tu veilles sur nous.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenue une des leurs?
Moi, je voudrais être des leurs. Parce que c'est quand même... C'est un peuple qui m'a adoptée. Je les ai adoptés. Bon, pour l'anecdote, c'est pas, je pense, on peut le dire. Si je meurs, je suis enterrée là-bas. Voilà. Donc, et ça, la plupart le savent et sont contents que, ah, il y a un malade qui m'a dit, je viendrai te porter des fleurs. Voilà. Donc, je suis bien là-bas, je suis bien adaptée. Je suis très contente de venir au Pays Bas, de rencontrer ma famille, rencontrer les amis, mais je suis très bien là-bas.
Vous étiez infirmière, donc vous êtes occupée des malades. Quelle était votre vie là-bas, tout simplement?
Voilà. Alors, dès le départ, j'étais nommée infirmière dans un dispensaire de brousse et j'étais fonctionnaire de l'État. C'était l'époque où c'était encore le président Houphouët-Boigny. Et nous étions considérés comme des fonctionnaires et on avait les privilèges de fonctionnaires. Et dès le matin, à 7h30, il faut être au dispensaire jusqu'à midi, 14h30 jusqu'à 18h. Alors là, c'est le flot de toute maladie. Il y a les coups de paludisme, les bronchites, les épidémies de gastro-entérite, la rougeole, les épidémies de rougeole. Et il y a aussi, bon, la poliomyélite était encore fréquente là-bas parce que la vaccination n'était pas tellement. Voilà. Et à présent, je suis à la retraite. Mais en arrivant à Korogo, parce qu'à la retraite, on m'a demandé de venir à Korogo, nous avons ouvert une maison de santé mentale. Actuellement, je travaille dans un centre de maladies mentales depuis 23 ans. Alors, bon, l'État a accepté que je sois directrice. Pour le moment, je suis directrice, bien que j'ai dépassé l'âge, etc. Mon travail n'est pas très compliqué. En fait, c'est un travail d'écoute et de consolation. Parce que les malades, comme partout, ont besoin de s'exprimer, de dire de quoi ils souffrent, de se plaindre des parents, de se plaindre de ceci et cela. Les écouter seulement, et puis, bon. Là aussi, les horaires sont assez stricts. C'est de 8h à midi, de 14h à 18h, 18h30. Je vais aussi au champ. On a une ferme pour la réhabilitation des malades mentaux. Et là, avec un jeune que nous avons initié à l'agriculture, nous essayons de voir qu'est-ce qui pourra intéresser les malades quand ils rentrent chez eux. Alors, on leur a appris l'agriculture, on leur a appris l'élevage et la confection de grillages. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait que mes journées sont extrêmement courtes, quoi. Ça passe trop vite.
Sœur Jeannine Saint, si je vous disais qu'être missionnaire, c'est annoncer l'évangile, vous seriez bien sûr d'accord, mais dans quel ordre vous avez fait ça pendant vos 50 ans de vie missionnaire en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on annonce d'abord l'évangile ou, comme vous l'avez dit, est-ce que votre ministère, c'est d'abord l'écoute et la consolation?
Vous avez dit quelque chose de très vrai, c'est d'abord la prière. Et en Afrique, tout le monde se lève trop, très tôt. Donc, notre programme de la journée, c'est le lever à 5 heures, oraison jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures, il y a la messe, bon, le petit déjeuner et le travail. Et quand j'étais à Niélé, j'étais avec deux basquaises. Et on a toujours dit dans notre projet communautaire, il faut, nous ne savions pas encore bien la langue, mais que par notre témoignage, les gens sentent que Dieu les aime. On va être des témoins de la tendresse de Dieu. Et je crois que c'est un programme qui me suit encore parce que si on se montre autre que tendre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La violence entraîne la violence. Un mot dur entraîne des injures. Donc d'être tendre, c'est-à-dire être juste, quoi, être à l'écoute des malades, ils savent le dire que, ah bon, tu m'as fait du bien, c'était juste le bonjour, ça m'a fait du bien, je repars, voilà.
En 50 ans, quelles ont été, selon vous, les évolutions de la Côte d'Ivoire et du peuple auquel vous avez été envoyé?
Voilà, la Côte d'Ivoire a énormément changé. d'abord de plusieurs fois de président. Depuis que je suis là, c'est le quatrième président. Ce dernier président, c'est un président musulman, mais qui a été premier ministre de Oufouette, qui est un vrai bâtisseur. Tout le réseau routier a été mis à neuf, pas tout, mais beaucoup. Et bientôt, il y aura la Cannes en Côte d'Ivoire. Il a fait il a arrangé tous les aéroports, fait des stades pour les Jeux, tout ça. Évolution physique, enfin, comment dire, matérielle, énorme. Il y a beaucoup plus de fonctionnaires, il y a plus de richesses chez certains. Et là, malheureusement, comme dans d'autres pays, on voit un peu la scission entre les très riches, un peu riches, et les pauvres. Ça, on le sent un peu plus fort qu'avant. Là où nous étions avant, on ne sentait pas cette espèce de scission riche et pauvre. On avait l'impression que tout le monde était dans la même case. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. On sent un décalage entre les fonctionnaires, ceux qui sont un peu riches, et puis les moins riches et les très pauvres. On le sent. Mais les très pauvres ne deviennent pas mendiants quand même, parce qu'ils ont un peu honte, quoi, comme s'ils n'avaient pas su se débrouiller. Voilà.
J'ai envie de vous poser la même question, puisque vous revenez régulièrement au Pays Basque, à Saint-P. Vous, comment vous voyez l'évolution ici?
Oui, cette évolution, je vois aussi comme en Côte d'Ivoire, le téléphone a un impact terrible, hein, en Côte d'Ivoire, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un impact extraordinaire, et pas toujours dans le bon sens. Et les élèves n'ont plus le respect des professeurs comme avant. Et je ressens ça ici un peu comme ça. Les enfants actuellement sont, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais ils sont presque libérés, ils libèrent la parole, on les entend parler des tout petits. Il n'y a pas de retenue de la parole, je trouve que c'est très libre. Et ici, on voit, même je vois en famille, nous avons vécu avec mes trois frères et mes parents dans une maison où on n'avait pas d'eau, tout ça. Maintenant, je vois toute ma famille est bien, bien, de jolies maisons, etc., une bonne place sociale. Donc tout ça, il y a pour moi, c'est un changement bénéfique, quoi. Mais il y a beaucoup de liberté chez les enfants qu'on n'avait pas avant. Et le téléphone aussi a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact ici aussi. Et la drogue, là-bas comme ici. La drogue fait des ravages incroyables là-bas, ce qui n'était pas avant. Oui.
Sœur Jeannine Saint, 50 ans de mission en Côte d'Ivoire, c'est la foi bien sûr qui vous anime.
Oui, je la demande tous les jours. Je la demande, ma prière quand même, c'est Jésus envoyé par le Père, guéri et sauvé le monde. Ça, c'est, je trouve que c'est la prière de la messe qui est, que je répète souvent, toi qui es venu guérir et sauver le monde, prends pitié de nous, quoi. La foi, oui, elle n'est pas, je ne sens pas toujours, comment dire, mais dans la vie, j'ai des tas de petits miracles quand même qui me disent, mais oui, Dieu était là et je ne le savais pas, quoi. Je le croyais absent, mais il y a des tas de bienfaits qui m'arrivent et qui sont la main de Dieu, quoi.
Sœur Jeannine Saint, 50 ans de mission, vous allez repartir dans quelques jours en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut vous aider?
Alors, je repars en Côte d'Ivoire le 19 novembre, j'étais venue pour 2 mois. Bon, nos besoins sont, là où je suis, sont énormes. Nous avons un centre de malades mentaux, ça veut dire une maladie où il faut soigner les malades tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas de stop là-dedans. Donc, les malades sont stabilisés, mais grâce aux médicaments. Donc, les médicaments ont énormément devenu chers. Et même, il y a des ruptures. Et nous fournissons un médicament à l'étranger parce que la Côte d'Ivoire n'en a pas assez. Là, c'est une vraie fortune que nous sortons de notre boîte chaque année. Ça fait dans les 25 000 euros à peu près. Après, nous avons aussi pris en considération les gens qui viennent de loin. Donc nous voudrions une voiture solide pour aller chaque mois. On fait 150 et 200 km de l'autre côté chaque mois pour voir les malades, pour les soigner sur place, pour faire des soins de proximité. parce qu'eux, en chemin, rencontrent souvent la police qui les arrête, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de casque, donc ils sont pénalisés. Alors c'est nous qui allons vers eux. Et là, bon, il y a quand même plus d'un an que je cogne un peu dans toutes les portes pour avoir assez d'argent pour pouvoir acheter un pick-up pour aller dans ces relais. On a un vieux, bon, qu'on bichonne pour ne pas qu'elle nous laisse en panne. Mais on essaie d'avoir une neuve pour être plus libre d'esprit.
Comment faire pour vous aider ?
Alors, si les gens, je sais que tout le monde devient un peu pauvre, on peut envoyer des chèques. On a une association, Solidarité Afrique, un compte Solidarité Afrique dans la maison mère chez nous. Et des gens qui veulent nous aider envoient un chèque à Solidarité Afrique à l'appui.
Chez les filles de la Croix, à la maison mère de l'appui.
De l'appui, voilà, la maison mère de l'appui, c'est ça. Donc il y en a qui nous envoient des chèques, qui... Tout chèque est quand même, c'est jamais rien de petit, c'est toujours excellent.
Un grand merci à vous, Sœur Jeannine Saint. Témoignage enregistré le 15 octobre 2023 lors de la journée inter-église à Ustaritz. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes originaire de Saint-Pé et que vous êtes religieuse, fille de la Croix en mission en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Sœur Jeannine Saint.
Merci beaucoup à vous. Voilà. Et je salue tous les auditeurs qui vont nous écouter. Voilà. Je vous remercie.